d'Abraham. Et je vous rappelle qu'il y a une différence, c'est que Ishmaël naît au temps où Abraham est encore Abraham, et vous vous rappelez sans doute qu'un des versets qu'on a cités définit Ishmaël comme étant le fils d'Agar, que Agar avait enfanté à Abraham. Vous vous rappelez peut-être de ce verset. D'ailleurs, au fond, si on a le temps encore aujourd'hui, je continuerai cette histoire sur une dimension au moins importante, comment la Torah nous indique quelle serait la résolution, plutôt que la solution de ce problème. C'est-à-dire, à un certain stade, à la fin de cette histoire, Ishmaël fait tshuva. Et là, la Torah l'appelle fils d'Abraham. Je crois que c'est important peut-être de revenir sur ce point, mais par la suite. Alors donc, dans l'étude, je suppose, j'ai indiqué qu'il ne faut pas faire une confusion entre la descendance d'Ishmaël et les Arabes. Et je vais donc reprendre ce point-là, et ensuite on reprendra le reste. D'après la Torah, Ishmaël est le fils de Hagar, c'est-à-dire d'origine égyptienne. Et il se rattache aux Hébreux par Abraham, qui était encore au stade araméen. Mais d'après la loi juive, l'enfant est l'enfant de la mère. Et on peut admettre, et d'ailleurs il y a des midrashim qui l'indiquent, on peut admettre que Abraham n'a pris comme femme Agar, qui est différente de Sarah. Sarah sort de la matrice des Hébreux, alors que Agar sort de l'Égypte. Que si elle s'est convertie à l'identité d'Abraham, qui n'est pas encore l'identité d'Israël, il n'y a pas encore de légalité de cette conversion, puisqu'il n'y a pas encore Matan Torah, mais enfin ce serait une dimension très analogue à Tzipora et Moshe. Effectivement, on ne peut pas concevoir, et les textes existent, que Agar n'entre dans la maison d'Abraham et sur l'initiative de Sarah sans se convertir, entre guillemets, sans se naturaliser de la famille d'Abraham. Vous vous rappelez d'ailleurs, dans un des textes du Midrash que nous avons étudié, que c'était l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle de Ishmaël, de Beto Sheloto Tzadik, en tant qu'il est enfant de la maison de ce Tzadik qui est Abraham. Alors, c'est un sujet pour lui-même, enfin vous pouvez le rattacher, le comprendre par vous-même. Il est impensable que la Torah nous raconte une histoire où Abraham prend une femme étrangère et ne la rend pas hébreu, alors que la consigne qu'il va donner à Eliezer pour sa descendance à partir d'Isaac, c'est dans aucun cas de ne prendre une femme étrangère. Vous vous rappelez de ce bien. Et donc, du point de vue de la halakha, on pourra mettre en suspens cette question, est-ce qu'Ishmaël doit être considéré comme faisant partie d'Israël? La réponse est non. Mais, malgré tout, je reviens sur ce point, pour le récit de la Torah, Ishmaël est donc un rejeton possible de l'Égypte engendré par Abraham. Et comme nous sommes très peu familiers à tout ce qui concerne ce monde de l'islam, je veux dire en tout cas les juifs qui procèdent de la culture occidentale, alors sont des choses qui ne sont pas très connues. Mais en fait, comme pour tout le reste, les sources divines, bien entendu. Seulement, dans la tradition de l'islam, la femme qu'Abraham a donnée, la femme qu'Abraham a prise en dehors de Sarah, n'était pas égyptienne, elle était arabe. Si je me souviens bien, le Coran l'appelle Fatima. Moi, je connais. Il faut vérifier. Hein. Je pense que le même nom que la femme de Mohammed par la suite. Enfin, il faut vérifier. Non, nous avons. Mais qu'est-ce que c'est que les Arabes? Je vais dire tout de suite. Mais nous avons un texte dans la Torah qui indique que après la mort de Sarah, Abraham a de nouveau pris femme. Et a eu un certain nombre de lignées, très importantes d'ailleurs, on reste encore un sujet pour lui-même, dont une de ces lignées, c'est Midian. Et le Midrash explique qu'il a repris Agar, que cette femme que la Torah appelle Ktura, c'est Agar elle-même. Après qu'Agar ait été renvoyée et qu'elle était retournée en Égypte, elle a fait Tshuva et elle est revenue. De nouveau dans la maison d'Abraham, mais entre-temps, Ishmaël reste en Égypte. Il ne revient dans le pays de Canaan qu'à la mort d'Abraham, et c'est le dernier épisode que nous étudions. Lorsque la Torah nous raconte la scène à Hébron, où Ishmael, au moment de l'enterrement d'Abraham, reconnaît la préséance de Yitzhak, ça nous allons voir tout à l'heure. Alors, pour la tradition de l'islam, il y a une lignée qu'on appelle les Ismaélites, et qui sont musulmans, mais qui ne sont pas arabes. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de croire que musulmans et arabes, c'est Khofef, que ça c'est qui ont. Le noyau de l'islam vient des arabes, que Mahomet a converti à cette religion, à cette ancienne religion d'Abraham, au temps où il était à Ouar. Et ça, nous en avons parlé quand on a parlé de nouveau de cette expression du Midrash, Ishmael, Bebeto, Sheloto, Tzadik, Ishmael, dans la maison d'Abraham, c'est l'islam. Vous vous rappelez de ce passage?
Bien.
Non. L'islam, c'est un retour de la descendance d'Ishmaël à l'ancienne religion araméenne hébraïque d'Abraham, qui avait été dénaturée dans cette descendance ismaélite et était devenue une idolatrie de superstition. Il y a vraiment une tchouva de cette lignée sous l'impulsion de Mahomet. Bon, la manière dont l'islam définit l'identité de leur prophète, comme ils disent, n'était prophète entre guillemets, il n'est pas considéré comme prophète selon les catégories de la prophétie de la Torah. Mais enfin, il est évident que, petite parenthèse, Mohammed a été l'élève des rabbins. Et on trouve dans le Coran la trace d'énormément d'enseignements que nous avons dans sa mute, c'est-à-dire la Torah Sheh Be'al Peh, complètement falsifiée. Je vais vous donner des exemples, mais enfin, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, j'ai souvent discuté avec des théologiens musulmans, pas avec des Arabes. Les Arabes refusent de parler avec nous, mais c'était des Pakistanais. Et eux prétendaient que c'est au contraire les Hébreux qui ont falsifié des traditions mises par écrit dans le Coran, dans la Bible. Mais si vous comparez ces textes dans le Coran et dans le Talmud, par exemple, je donne un exemple, puisqu'on en parle. Je suis désolé pour l'enregistrement, c'est un petit peu comme ça, bateau rompu. On trouve comme ça un midrash dans le Coran, j'ose dire, que Joseph avait 11 étoiles tatouées sur l'épaule gauche. Bon, c'est une contamination de deux enseignements de la Torah. Un des rêves de Joseph, où il voit ses frères dans l'aspect de 11 étoiles, et que d'autre part, l'héritage de Joseph, c'est Shrem. Or, Shrem, ça veut dire l'épaule. Vous voyez comment ça se contamine. Alors, vous avez comme ça un midrash fantasmagorique que Joseph avait 11 épaules tatouées sur l'épaule gauche, et que c'était un arabe. Vous comprenez? Et alors, on fait des quantités de choses de ce genre. Et, en fait, Mahomet a converti à cet islam qu'il est en train de fonder, après l'enseignement des rabbins, des curés aussi d'ailleurs, des prêtres chrétiens. Mahomet avait l'ambition, comme par la suite, beaucoup plus tard, Luther, au moment du schisme que Luther a déclenché dans le christianisme, d'être reconnu par les juifs comme le Messie que les juifs attendaient. De même d'ailleurs que par la suite, quand Luther a eu cette déception, les juifs l'ont refusé bien entendu, eh bien il a introduit dans le protestantisme luthérien en tout cas, un peu plus que chez les calvinistes, mais surtout chez les luthériens, un antisémitisme farouche du même type de réaction de déception, frustration, puisqu'ils ne m'ont pas accepté, alors je suis contre. Vous comprenez à peu près le plan, ok? Mohamed, à ce moment-là, et pour des raisons d'ailleurs qui s'expliquent historiquement, est à l'origine d'un ressourcement culturel, spirituel dans la péninsule arabique, déclenché par la présence d'une diaspora de juifs, d'ailleurs, se présente comme étant fondateur d'une nouvelle religion, mais qui veut se faire authentifier par la matrice de toutes ces religions-là, qui était le judaïsme. Les juifs l'ont refusé. Ils l'auraient accepté comme guerre, à la limite, pas guerre tzedek, mais enfin comme guerre fondateur d'une lignée retrouvant la loi noachide, mais se présentant comme étant la réalisation du véritable judaïsme qui serait l'islam, avec la prétention que c'était ça la tradition d'Abraham. Les juifs ont refusé. Ils l'ont payé très cher, parce que c'est là qu'a commencé la grande persécution des juifs dans la péninsule arabique par les arabes, qui était une une des tribus des Arabes était la tribu des Coréchites, qui s'est alliée à moi, à Mohammed, par mariage. Alors c'est comme ça que les Arabes ont été le principal noyau de l'islam qui va commencer son expansion à ce moment-là, et qui a converti énormément de peuples qui n'ont rien à voir avec les Arabes. Et il est resté une lignée privilégiée qui s'appelle la lignée des Ismaélites. Ça y est, c'est clair, enfin, de façon très, très schématique. Voilà ce que... C'est une des sectes de l'islam et qui s'appelle les Ismaélites. Et qui ont d'ailleurs un chef qui est héréditaire. J'ai oublié comment il s'appelle. Il a le titre de Khan. K-H-A-N. On ajoute à son nom. Bien. Voilà pour ce point. On pourrait évidemment élargir tout cela d'un point de vue historique, mais bien pas. Comme il n'est pas là, c'est plus bien. Donc, oui. Attendez, maintenant je vais indiquer que le Midrash parle des Arabes et au temps d'Abraham. En particulier, vous retrouverez dans les sources, Rashi cite un de ces Midrashim, lorsque, au début de la paracha de Vayera, lorsque Abraham est devant sa tente, après la circoncision, on reviendra à la question de la circoncision tout à l'heure, et qu'il y a une indication à propos de la phrase que Abraham va dire aux anges qui se révèlent à lui, « Veira hasur par l'echem »« Lavez vos pieds ». Et le Midrash explique parce qu'il y avait une forme d'idolâtrie à l'époque qui consistait à adorer la poussière du chemin qui s'attache aux pieds des pèlerins. Bon, il y avait des superstitions de Rabbi Bezara dont on n'a aucune idée. Les modernes n'ont aucune idée de ce qu'ont pu être les théologies idolâtres et païennes. On voit lorsqu'on étudie par exemple le mauvais Nebuchim au temps de Maïmonide avait une connaissance des superstitions et des idolâtries dans le monde de l'islam qui sont hermétiques aux modernes. Ils ne comprennent rien. Et il y a un Midrash, non, c'est une Gemara, que la Maseret Avodah Zarah que connaissait Abraham avait 360 chapitres. Bon, je referme la parenthèse. Et alors que nous, on a quelques pages de Maseret Avodah Zarah, et c'est très difficile pour un moderne, encore une fois, d'arriver à réaliser comment les anciens pouvaient croire à des shtuyot pareils. Alors, ce n'était pas des shtuyot, c'était des théologies idolâtres, païennes, superstitieuses, mais encore une fois, qui sont imperméables aux modernes. De la même manière, d'ailleurs, que les modernes ne comprennent plus le mythe païen fondateur du christianisme. Chez les chrétiens eux-mêmes, on ne comprend plus de quoi il s'agit. Ils adorent ça, mais ils ne comprennent pas le christianisme. Il faudra qu'un jour on leur apprenne à lire les évangiles. Donc, ce sera un juste retour des choses. Et alors, vous avez dû sans doute y réfléchir. Comment est-il possible que des gens normaux croient à des choses pareilles? C'est parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont oublié eux-mêmes. Alors, ça a une apparence de choses comme je Et je vais raconter une petite anecdote, mais tu me rappelleras où je me suis arrêté avec les Arabes. Il y a très très longtemps, j'ai assisté comme représentant des étudiants juifs, mais alors il y a longtemps, à un congrès international d'étudiants. Et puis, je me suis lié d'amitié avec le représentant des étudiants yougoslaves, qui parlait français. Et puis alors, on a bavardé, et puis il me racontait que dans sa jeunesse, il était chrétien, et puis qu'il était devenu marxiste, et qu'il a abandonné le christianisme quand il s'est rendu compte que toutes ces croyances-là, ça n'avait aucun rapport avec son histoire. Lui, yougoslave, c'était un serbe d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait pour lui de crédible de croire dans des histoires de famille, d'une famille de bédouins qu'on appelait les Hébreux dans un petit coin de la planète, et puis alors qu'à l'église, on croit les mains jointes pieusement à ces histoires de famille. Mais finalement, en fin de compte, il avait même découvert que les Juifs étaient des descendants de ces fameux bédouins, comme ils disent. Et d'ailleurs, ça m'avait fait comprendre à quel point il y a un phénomène, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte vous-même, de par le vaste monde, des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël, ni de loin ni de près, et puis qui croient qu'ils sont Israël et qui adorent le Dieu d'Israël, à leur manière. C'est un phénomène inouï. quand dans les Juifs ne sont pas du tout préparés à comprendre l'ampleur et les dimensions. Quel côté que cette histoire est arrivée à l'humanité. Vous rentrez dans les Carpates ou en Irlande, dans un de leurs temples, et pieusement, dans des langues barbares, pour un hébreu, on vous adore le Dieu d'Israël. Et on est persuadé que c'est ça Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une histoire pareille. Hein. Top. Le jour où on fera la paix, si on fait la paix, il faudra leur expliquer avec beaucoup d'attendrissement que ça nous a fait plaisir pendant 2000 ans d'avoir des cousins inconnus. Je referme la parenthèse. Et alors, c'est vrai ? Écoutez, si, c'est interdit, hein, mais si vous rentrez dans un temple chrétien, vous écoutez des prières au Dieu d'Israël. De façon païenne. Okay, mais top. Et alors, vous lisez leur littérature. Alors, ça m'a fait comprendre quelque chose dans cette conversation avec cet étudiant yougoslave. Je ne sais pas si je vous ai raconté une fois ça, Mariano. C'est qu'effectivement, c'est des mystères pour eux, tout ce qui se raconte dans l'histoire de leur foi. Des mystères. Abraham, Isaac, Jacob. Alors, vous avez dans le vocabulaire de l'Église ce terme de mystère, que l'objet de la foi, c'est des mystères. Et qu'est-ce que c'est un mystère? Je vais essayer de vous expliquer la différence entre un mystère et un secret. Un secret, c'est une connaissance que l'on n'a pas parce qu'elle est cachée, mais qu'on peut avoir. Tandis qu'un mystère, c'est une connaissance qu'on ne peut pas avoir. Est-ce que vous avez compris? Bon. Dans l'ordre de la Torah, il y a des citrés Torah. Et il ne faut pas traduire citrés Torah par des mystères de la Torah, bien que le mot ressemble à travers le grec en français. Mais ça n'a rien à voir. Seter, ça veut dire quelque chose de caché. Alors que eux, ils ont coupé ça en deux, la moitié a mis ster, et ils en ont fait des mystères. Mais c'est très différent. Alors, ce que j'ai compris, c'est cela. Quand les premiers apôtres ont commencé à évangéliser le monde païen, alors ces braves païens, ils leur ont demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ils répondaient, c'est des mystères. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est des mystères? C'est-à-dire qu'il n'y a que les Juifs qui comprennent. C'est leurs histoires de famille. C'est pas plus compliqué. Vous avez compris? Et d'ailleurs, dans le monde de l'islam, c'est la même chose. Il y a toute une tradition de type midrashique que les théologiens musulmans appellent en arabe les israéliyat, et ça veut dire les choses d'Israël. Les choses d'Israël que seul Israël peut comprendre. Est-ce que vous comprenez le problème? Et d'ailleurs, c'est arrivé aux Juifs. Finalement, les Juifs, à force de s'assimiler à d'autres cultures, sont devenus étrangers à la mémoire juive elle-même, à la mémoire hébraïque elle-même. Et quand ils lisent un midrash, ils disent « Ah, c'est un midrash !» Dans le sens de légende. Vous comprenez ce que je dis? Alors, je reviens donc à ce problème. Une de ces superstitions idolâtres, ça consistait, il y avait un rite, qui consistait à adorer la poussière qui s'attache aux pieds du pèlerin. Et alors Abraham leur dit, il croit que c'est lorsque les envoyés, enfin les anges se rébellent à lui, il croit que c'est des passants, des pèlerins païens. Et le Midrash de Sifrachi dit, c'était l'habitude chez les Arabes d'adorer la poussière de leurs pieds. Donc on connaît les Arabes. Et si vous voyez le mot de Arab en hébreu, A-I-R-E-B, c'est une manière d'être ivri approximative. Tishtush, bilbou, ok? Un arabe, c'est un hébreu brouillé, crépusculaire. Ma'ariv, arabim, behochma. Vous avez compris ce que ça veut dire? Effectivement, je crois que de toute la terre, en fait, de toute l'humanité, les hommes qui ressemblent le plus aux hébreux, c'est les arabes. Blichon ça fait. Je crois que je vous ai parlé de ça un des derniers cours. Lorsque Ishmaël fait tchouva, c'est un vrai cousin. Tant qu'il ne fait pas tchouva, c'est le pire des ennemis. Okay? Et vous remarquerez que les grands problèmes qu'on a avec eux, c'est autour de Hébron. Remarquez bien ça dans les journaux. Okay? Bon, on reviendra à Hébron tout à l'heure. Voilà donc la différence entre l'identité arabe et la lignée d'Ismaël. Et finalement, à partir de l'islam de Mahomet, de Mohamed, je ne sais comment on l'appelle. Le noyau principal de l'islam, c'est les Arabes, mais la ligne originelle, c'est les Ismaélites. Et puis tous les peuples ont été convertis à l'islam. Je crois que le peuple qui est en train d'être converti à l'islam actuellement, c'est la France, et je ne dis pas des blagues. Je ne sais pas si vous savez qu'ils ont repris le problème là où Charles Martel l'avait arrêté, à Poitiers. Et puis ils ont dépassé Poitiers. Non seulement ils sont en train d'acheter la France, je ne sais pas, hein, pour le moment il y a une bonne partie qui est achetée déjà. Est-ce qu'ils auront encore de l'argent? Ça dépend des puits de pétrole. Très probablement ça va s'arrêter. Et puis ils sont en train de convertir des Français et des Françaises, on n'avait aucune idée dans quelle envergure. Hein. Actuellement l'islam est la deuxième religion de France après les catholiques, bien avant les protestants et les juifs. Bon, un autre problème. C'est une des raisons pour laquelle il faut dire à vos cousins juifs que ça devient dangereux d'habiter la France. Pas à cause de l'assimilation à la France. Et alors, les juifs sont tellement naïfs que les principaux défenseurs des Arabes en France, c'est les juifs de France. Je ne sais pas si vous savez ça. Il y avait un mouvement qui a été fondé par les étudiants juifs d'ailleurs. Touchez pas à mon pote, vous avez connu ce truc-là. Et qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fondé ce mouvement? D'authentiques métèques en France, juifs. Des métèques. Donc, c'est même pas des israélites français. Je les connais, d'ailleurs, ces fondateurs. Je vais raconter une blague qu'on va raconter à ce moment-là à Paris. Peut-être vous la connaissez. Il y a trois Français qui se disputent sur un pont, la rivière. Un catholique, un juif et un arabe. Les trois étaient des cons. Puis finalement, le catholique s'énerve et. Le juif et l'arabe se disputent et l'arabe tombe dans la rivière. Alors le catholique veut aller le sauver et le juif dit: touche pas mon feu. Parce que ça risque de déclencher, entre autres choses, mais centralement, une xénophobie anti-arabe, et les premiers qui paieront les pots cassés, c'est les juifs. Chaque fois qu'il y a de la xénophobie quelque part, c'est les juifs qui prennent d'abord. Je ne sais pas quoi. Vous attendiez autre chose. Hein. Ça aussi, c'est vrai, ça que je n'ai pas dit. Bien. Alors, je reviens à ce problème et je veux vous raconter un autre souvenir de ma vie d'étudiant. Ah, c'était avant, c'était quand j'étais au lycée. Et alors, j'étais en classe de 6e. Et je pense que c'est encore les mêmes programmes. On étudiait l'Antiquité, les peuplades de l'Antiquité, enfin surtout du Moyen-Orient, comme ils appelaient ça. Et alors, moi, en même temps, j'allais au Talmud Torah. Alors, je savais un peu quelque chose, quand même, grâce à Dieu, sur les Hébreux. Et les Hébreux, c'était un des chapitres. Et alors, quand j'ai entendu le cours du prof au lycée sur les Hébreux, je me suis dit, mais s'il raconte de telles bêtises sur les Hébreux, il n'y a pas de raison que quand il nous parle des Phéniciens, ou des Hittites, ou des Aztèques, ou des Grecs, ce n'est pas les mêmes bêtises. Alors, depuis ce jour-là, tout enfant, je savais que quand les modernes parlaient des anciens, ils disaient des bêtises. Et alors, on nous parlait de gens, surtout les Grecs, qui étaient des géants dans tous les domaines de la culture. Et dès qu'il s'agissait de la vie spirituelle, c'était les infantiles. Ça passait pas. Ça veut dire que le moderne était incapable de comprendre le contenu des mythes païens, tout simplement. Incapable. Et je vous donnerai un exemple qui m'a frappé. Il a fallu attendre Freud, disons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des penseurs, mais ça n'avait pas mordu jusqu'à la psychanalyse de Freud, pour arriver à découvrir que dans ces mythes du paganisme grec, il y avait des thèmes de pensée profondes, impures, mais profondes. C'est clair, ce que je dis. Par exemple, l'Édipe. Alors, pendant des siècles, vous avez toute une culture qui a été fascinée par des thèmes de ce genre, sans savoir pourquoi, et il a fallu que Freud, à la manière de Joseph déchiffrant les rêves, si j'ose dire, explique aux goïms que dans leur l'enfantillage païen, il y avait de la pensée impure, mais profonde. C'est clair ce que je veux dire. Bon, et d'ailleurs, le thème de l'Édipe concerne l'âme grecque, ça ne concerne pas l'âme juive, mais pas du tout, sauf quand il s'agit d'un juif assimilé à la culture grecque. Alors ça fonctionne. mais je vous dis ça. Alors, je reviens au problème. Alors, à propos de ce midrash que je vous cite Rashi, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce genre d'idolâtrie, d'adorer la poussière qui s'attache aux pieds des pèlerins. Et comme je n'ai pas de source, mettez ça entre parenthèses. Eh bien, je pense qu'il y a là un thème de l'ancienne sensibilité religieuse païenne qui a sa sagesse pour elle-même, et que l'homme est comme un pèlerin qui est en route, et la poussière du chemin qui s'attache à ses pieds, c'est sacré pour lui. Bon, réfléchissez là-dessus et perdez pas de temps. Vous n'êtes pas censé devenir des spécialistes en idolâtrie. Et alors, c'est à propos donc, de ce midrash que on parle des Arabes. Voilà, c'était une des superstitions des Arabes, donc ils existaient en tant que peuplade au temps d'Abraham. Alors c'est quand même pas par hasard que ce soit des Arabes qui passent lorsque Abraham, enfin que lorsqu'Abraham a cette vision des trois anges, il pense que s'il s'agit de pèlerins, ça peut être des Arabes. Vous avez compris que c'est contemporain et que c'est... Bon, et qu'est-ce que tu veux dire? Attends, parle un peu plus fort.
Cette rencontre se fait avec Abraham, on ne peut pas se rapprocher de Baal-Mouti.
Non, non, non. Là-bas, c'est un autre. On peut faire un lien, mais c'est Darouk. Là-bas, c'est autre chose. Vous voulez chercher le. Non, là-bas, c'est un autre sens. Vous voulez chercher parce que je ne vois pas aujourd'hui. Dans le début de Vaïra, ok? Ce rachis que je vous cite, puis je vais vous le lire. Verachasur arlechem. Le Midrash dit, évacuez votre avodazara. Bon, voilà en tout cas, grosso modo, sur cette question de la, très schématiquement, de la relation entre l'Inoski, Ishmael et les Arabes. J'ai connu des musulmans non arabes et des musulmans arabes. Mais il est évident que les Arabes sont beaucoup plus proches de nous que les non-Arabes. Dans l'islam, c'est clair. Voilà, Verachatur Arlechem. Kasabuk, c'est Marbiim, c'est Mishtahavim, les Abach Arlechem, Vekpit, c'est l'eau, les Arnis, Abodat et Lilim, les Betot. Oui, c'est clair. Je vous traduis. Hein. Abraham pensait que c'était des Arabes. Lesquels arabes se prosternent à la poussière de leurs pieds, et il a été vigilant de ne pas faire entrer de l'idolâtrie dans sa maison. Alors il les invite en hospitalité, mais il leur dit commencez d'abord par vous laver les pieds. Vous savez d'ailleurs que les musulmans se lavent beaucoup les pieds avant la prière. Vous avez remarqué ? Bon, aucun rapport, c'est grand. Bien. Bien.
Il y a deux manières de prier. Une manière respectueuse et une manière non respectueuse. Vous dites que la religion originelle d'Abraham, c'est respectueux. Et vous dites que c'est plein de mythes.
Oui. Cette tradition religieuse originelle d'Abraham, c'est-à-dire des Hébreux tels qu'ils étaient devenus araméens clandestins au Kresdim, est devenue pleine de superstitions idolâtres, en particulier dans la lignée des Arabes. Et c'est ce midrash que je vous ai peut-être cité, ou que vous connaissez, comment on décrit la vocation d'Abraham enfant. Okay. C'est que le père d'Abraham était fabricant d'idoles. Le père d'Abraham, fabricant d'idoles. Okay. Et Terah, le père d'Abraham, fabricant d'idoles. Et c'est un descendant de Shem et Hever. Okay. Et qu'est-ce que c'est un fabricant d'idoles? C'est le grand prêtre de l'idolâtrie du temps. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre de l'idolâtrie? Il fabrique des idoles, c'est clair? Ça veut dire que cette tradition hébraïque, dans la famille d'Abraham même, s'est dévoyée un peu, je ne sais pas, je vais vous dire une image qui me vient à l'esprit, un peu comme les juifs, s'assimilant à la société chrétienne, fabriquent des synagogues qui ressemblent à des églises, à la limite. Et finalement, ces synagogues se vident. Parce que quand les juifs sentent qu'ils ne sont pas chez eux, ils ne vont pas.
Quand vous parlez de jusqu'à l'islam ou à partir de l'islam?
Jusqu'à l'islam.
Donc, l'action que vous avez sur l'islam.
Alors, à partir de l'islam, comme théologie, est une théologie compatible à la théologie du judaïsme. C'est pas la même? Mais c'est un monothéisme qui est compatible, ce qui n'est pas le cas du monothéisme chrétien. Ce qui est incompatible entre l'islam et le judaïsme, c'est la conception d'un moral. Alors qu'avec le christianisme, c'est l'inverse. La conception chrétienne de la morale est parallèle, pas exactement la même, mais elle est parallèle à la morale talmudique. Alors que leur théologie est idolâtre. Alors on est bien coincé. D'un côté, Ishmaël, ça va très bien avec la théologie, mais ça ne va pas du tout avec la morale. De l'autre côté, à Esav, enfin, la chrétienté, on peut s'arranger en morale, mais en théologie, Shundala. Vous avez compris? C'est énorme à quel point c'est simple. Je vais vous dire ça dans un autre vocabulaire que j'emploie souvent. C'est-à-dire, les chrétiens nous disputent le ciel, ils ne veulent pas qu'on rentre au ciel. Le ciel, c'est pour tout le monde, sauf pour les juifs, mais ils vous donnent un coin de terre. Vous serez citoyen irlandais. Tandis que dans l'islam, c'est l'inverse. Le ciel, ils savent, c'est chez nous. Ils nous disent en arabe, d'ailleurs, français, c'est la maison de ton père. Fais-nous un petit coin. Mais sur terre, tu n'as pas de place. Les juifs n'ont pas de place sur terre musulmane. Ça veut dire que les uns nous refusent le ciel, les autres nous refusent la terre, alors ils nous ont laissé l'horizon. C'est ce qu'on appelle l'exil. Alors un jour, les juifs ont dit, zut, on revient sous le ciel de notre terre. Alors le monde de la chrétienté et celui de l'islam entre en transe. Vous avez remarqué ça, le monde, dès qu'on dit Jérusalem, il y a des coliques partout. Ils sont à plein, finalement. Qu'est-ce que c'est?
Oui, la théologie
de
la
chrétienté,
c'est complètement
ça. Parce que la superstition, finalement, c'est un reste de l'ancien paganisme dans toutes les traditions païennes. Finalement, encore une fois, les modernes sont imperméables à ces choses-là. J'ai eu des professeurs en sociologie qui étudiaient en microsociologie des phénomènes de superstition de la société française. Nous allons en décrire un. Par exemple, vous entrez dans une cantine d'une usine. Alors vous avez, on sert aux ouvriers, parfois il y a même des contremaîtres, le même plateau. Hein. C'est du, je sais pas quoi, des haricots avec je sais pas quoi, et puis une bouteille de vin. Alors vous voyez les ouvriers qui se sourient, ils échangent leur vin, mais ils n'échangent pas leur petit pois. Pourquoi? Non, superstition. Alors d'où ça vient? Ça vient d'une ancienne idolâtrie. Alors, la superstition en question. Imaginez quelqu'un qui débarque d'une autre planète. Il s'assoit à la cantine et il voit que les gens se servent leur vin, mais jamais prendre à l'assiette de l'autre. Ils sont fous. Comprends. Alors, on est tellement habitué à ce type de civilité qu'on croit que ça va de soi, que c'est la politesse. Pas du tout, c'est un reste de superstition. Vous avez compris? Et ça ne veut pas dire qu'à l'origine, ça n'avait pas un sens.
Ce que je demande, c'est pourquoi dans l'islam, ça a été important, parce que je sais que même certains sont crimes, dont la plupart des islamistes, ils ont la prière, mais il y a un certain qu'à cause des superstitions.
Absolument. Absolument. D'ailleurs, je l'ai cité au dernier coup. Hein. J'ai cité un épisode avec la griva de Bonn. Hein. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une synagogue. Je crois qu'elle est fermée maintenant. La griva de Paul. Je ne parle pas celle de Djerba. Djerba, il y en a deux, la grande et la petite, mais c'est Djerba, à Paul. Oui, enfin, ils ont refait une photo, quoi. Et elle est jolie, d'ailleurs. C'est pas Netivot, ça Netivot. D'ailleurs, la photo de la griva est très jolie. Elle est installée à Marino, cette photo, d'ailleurs, je ne sais pas si. Et la synagogue est très jolie. Ça fait une nostalgie pour ceux qui ont connu ces anciennes synagogues. Et alors, voilà comment c'est arrivé. Un jour, il y a un cercueil où il y avait un Sefer Torah dedans qui débarque sur la plage à Bonn. Alors les Arabes ont couru chercher le rabbin. Et le rabbin a fait construire une synagogue pour ce Sefer Torah. Et depuis ce temps-là, les Arabes bien adoraient ce Sefer Torah. Alors ce que je vous ai raconté, c'est que, en tant qu'ils sont musulmans, ils ont le droit de rentrer faire la prière dans une synagogue. D'ailleurs, du point de vue de la halakha, en principe, on a le droit de faire la prière juive dans une mosquée. Je ne sais pas si c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'idolâtrie. Et seulement, le rabbin, c'est le rabbin Naoru, leur interdisait de s'approcher à moins de 10 pas. Et il expliquait, parce qu'on ne sait pas s'ils sont pas superstitieux. S'ils sont superstitieux, c'est idolâtrie. S'ils sont vraiment musulmans, ils ont le droit de prier dans la Torah. Vous avez compris? Alors, effectivement, Les vrais musulmans ne sont pas superstitieux. Mais les vrais musulmans, où c'est? Vous avez rencontré, vous? Ça veut dire que c'est une société qui est pleine de superstitions et qui a d'ailleurs imprégné les juifs de ces pays-là. Vous avez des conduites des juifs sfaradim d'Afrique du Nord, que je connais en particulier, et c'est sûrement dans notre pays d'islam, qui, à l'origine, sont des attitudes de piété absolument cachères, mais qui ont été imprégnées par des attitudes musulmanes. Par exemple, ce qui se passe maintenant en Éthiopie, il y avait Baba Salé, qui était un véritable cadeau, je l'ai connu. Maintenant, il y a Baba Sucré, vous savez. C'est une horreur. C'est en train de devenir de la superstition absolue. Bien. On a parlé de Timo, toi. Bref. Donc voilà pour la question des Arabes. Alors je vais avancer sur la fin du texte du Zohar, là où on s'est arrêté la dernière fois. Vous vous rappelez que le Zohar enseigne qu'il y a une achiza, il y a un droit de revendication sur la terre promise à Abraham, qui est reconnu à Ishmaël lorsque la terre est vide de la descendance d'Abraham par Israël. Vous vous rappelez de ça? Et que c'est parallèle, ce schout lui est obtenu par le sar de Ishmaël, qui plaide devant Dieu et qui dit: pourquoi tu favorises cela et pas cela? À cause de la circoncision, mais ils ont aussi la circoncision. Et Dieu lui répond à ce sar: c'est pas la même. C'est une circoncision vide, il n'y a pas de préa, et c'est pas 8 jours. Et alors c'est là que les autres enchaînent, et de la même manière que leur circoncision est récanite, vide de tochen. De la même manière, lorsque Eretz Israël est vide, sous-entendu d'Israël, c'est eux qui ont droit. Alors je crois que je vous avais expliqué qu'effectivement, lorsque de notre temps, Israël a été aux prises avec une souveraineté chrétienne sur le pays, ça a été dur, mais c'était facile. À partir du moment où il s'agit des Shtachim, que bien qu'il n'y avait pas de souveraineté légale du point de vue du droit international lui-même, c'est encore un autre problème, ça devient très difficile. Et pour pouvoir retrouver ce morceau d'Eretz Israël, où c'est l'islam comme islam qui est installé, il faut le mérite de la Torah. Alors que jusqu'au Kavayarok, il suffisait du mérite du sionisme politique de Ben Gurion. Il y avait aussi besoin de la Torah avec. Mais c'était réceptif. C'était le Mizrahi. Vous comprenez ce que... Alors qu'on voit qu'à partir de la guerre des 6 jours, surgit une autre identité sioniste au nom de la Torah. C'est-à-dire pas des mapaïnikim qui mettent les tfilim, mais des, ça c'est le Mizrahi, enfin la plupart, mais des sionistes de Gush Emunim. Et regardez que le mot de Emunah est revenu là-dedans. Bon, voilà, je crois que c'est là qu'on est arrivé, alors j'oublie la suite. Et après, s'il nous reste un peu de temps, alors on essaiera de parler de la question de Gilles. Quel rapport entre la promesse de la terre et la Brit Mila? Mais je me demande si je vais le faire, parce que ça implique beaucoup de connaissances préalables, et puis c'est un sujet que j'aimerais pas enseigner avec des filles et des garçons maintenant. Alors si vous n'en séparerez, ou on verra plus tard. Alors je reviens donc au texte. Hein? Oui. On sera des sionistes, des sionistes. Top. Ve'atidim, ben Ishmael. Et dans l'avenir, les enfants d'Ishmael, atidim, où suis-je? L'ishlot ve'eret ha'kdusha, de dominer sur la terre de sainteté, donc Ketnaan, kesheu rekam me'akol zmanra, lorsqu'elle sera vide un long temps. Et, bon, je crois que c'était là qu'on était arrivé. Je rappelle quand même quelque chose que j'ai peut-être signalé. C'est pourquoi il y a une très grande responsabilité sur cette impasse, disons, démographique, apparemment, c'est un problème qui m'impressionne, parce qu'au commencement du sionisme, la proportion démographique en faveur des Arabes en Eretz Israël était 100 fois plus forte, et pourtant on a eu l'éclat. C'est pas tellement ça le problème de démographique, c'est le problème que s'il n'y a pas un juif, il y a un arabe. Et voilà, ça vient du Zohar. C'est pas l'ONU qui a décidé. Et c'est la responsabilité des autorités juives qui empêchent les juifs de la Gola de venir peupler les Shtachim. Je ne sais pas si vous savez ça. Hein. Bon. Mais ça va très loin, puisqu'il y a des Yishuvim dans les Shtachim, peuplés par des juifs orthodoxes, mais qui sont prêts à accepter une souveraineté arabe. Je ne sais pas si vous savez ça. Hein. Bon, vous devez apprendre ça d'autre part. Et alors, j'avance. Kemo Shemina Shelaem Rekanit Bishlem. De même que leur Brit Mila est vide sans perfection. Vehem Yaakvu Libne Israël Milashuv Limkomam. Et c'est eux qui seront obstacles aux enfants d'Israël de revenir dans leur endroit. Effectivement, qui s'est opposé au retour? C'est les musulmans. Je pense que c'est clair, c'est leur peine d'analyse. Okay. J'allais dire les Arabes, mais. Ce qu'on appelle les Palestiniens qui habitent le pays aujourd'hui, pas les Juifs, eh bien, c'est une population extrêmement composée. Et à l'origine, il y a peu d'Arabes chez eux. Mais ils ont été convertis à l'islam, parfois de force, et des descendants de Palestiniens juifs, en particulier à Hebron. Vous avez beaucoup de familles arabes qui savent qu'ils descendent de Judéens habitant le pays, mais convertis de force à l'islam. Et. Ce que je voulais ajouter, c'est. Bon, ça m'échappe. Très composite. En particulier, je vais vous donner un détail. Au moment du sionisme, d'autres pays arabes sont venus, énormément de gens, s'installer dans le pays parce qu'il y avait du travail. Et en particulier, les Arabes d'Afrique du Nord, qu'on appelait ici dans le pays des Arabes à couscous. Parce qu'il ne faut pas croire que le couscous est un plat arabe, c'est un plat berbère, hein, et qu'on ne connaissait qu'en Afrique du Nord. Je pense que vous savez ça. Hein. D'ailleurs, le nom originel est un nom berbère, c'est kchkcho, et ce n'est pas du tout un nom arabe. Et alors, les Arabes qui mangent du couscous en Israël, eh bien, c'est des Nord-Africains. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens au cours de... Et donc, c'est eux qui empêcheront, qui seront un haïku, qui mettront des obstacles au retour d'Israël. Ve'atidim b'nei Ishmael, et les enfants d'Ishmael sont destinés, enfin dans l'avenir, les Aurel, Milhamot, Hazakot, Ba'olam, déclencheront de grandes guerres dans le monde. Regardez jusqu'où ça va. Je me demande si je vais tout vous lire. Peut-être mal à la mort. Bon, on fait encore quelques. Veitassu bnei Edom, et les descendants d'Edom se rassembleront, ça c'est la finule, allez contre eux, Vidgaru Milhama Baem, ils auront une guerre entre eux. Ahat alayam, une sur la mer, Vahat alayavasha, une sur terre, Vahat samouk l'Irushalayim, et une près de. Bon, je continue pas. Mais peut-être c'est déjà arrivé, peut-être ça arrivera encore, ça c'est les Zohar. Mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que le Zohar a bien vu que le conflit avec la terre, ce n'est pas le royaume des croisés. Aucune allusion à cela. C'est avec l'islam. Or, la mise par écrit du Zohar, quelle que soit la date ou les historiens la date, c'est l'enseignement des Tanaïm au temps où le pays était occupé par les Romains et pas du tout, ni par les Turcs, ni par les Arabes. Ni par les Arabes, ni par les Turcs. Mais ils ont vu. Que, effectivement, dans l'avenir, à la fin de l'usine, quand les Juifs reviendront, l'empêchement, ça sera l'Ebn Ishmael. C'est clair. Voilà donc pour ce. Alors finalement, à la fin, c'est une fin très heureuse. On finira par être victorieux. Et je ne vous lis pas le détail. Bien, alors on va faire une petite astaka et on va s'occuper d'Abimelech. Est-ce que tu as le Yalkut Shimon? Je vais faire une